Assalamu alaikum, bienvenue. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc déjà, j'espère que vous entendez bien. Donc nous allons donc poursuivre, inshallah, et toujours on met la bonne intention par recherche de l'agrément de Allah. Donc, il faut toujours la bonne intention pour avoir les récompenses. Et le prophète, alayhi salam, a dit: «Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din». C'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc, nous allons on va commencer par cette fois-ci par la prononciation. Regardez l'article sur le tajwid. Donc, nous allons poursuivre sur ce qu'on a commencé, sur les règles de prononciation. Donc, on a vu les règles, les caractéristiques des lettres. Donc on a vu le qalqala. Donc ça, avant on a vu les lettres de sifflement, sod, zay et sin. Qalqala, donc qutbu jadin, ces lettres-là. Donc, qaf, iq, c'est qalqala, it, ib, id, id. Donc, c'est les lettres de al-qalqala. Ces lettres sont appelées ainsi car, quand elles sont prononcées, sakina, elles ont une forte tonicité. Donc ainsi, on les prononce, on ouvre le point de prononciation, en fait. Parce que ces lettres-là, en fait, à l'origine, on a vu, c'est les lettres de Ashedda. Et donc, on ouvre pour laisser passer le son. Lin, on a vu mad lin dans Yaoumi, alayhim, c'est le waou et le ya. Le waou et le ya, quand ils sont sakina et qu'il y a une fatha avant. Yaoumi, alayhim, c'est. L'in, c'est la souplesse. Donc, c'est un mad souple, on va dire. Et le roi, on a dit, c'est la lettre, il l'appelle les savants de At-Takrir. Alors, donc, mais il faut éviter, en fait, de ne pas faire appel à. Il faut éviter de faire apparaître cette répétition. Donc, on ne dit pas Ar, on dit Ara, Rou, Ri, Arra, Arrou, Arri. Arra, Arrou, Arri. Ra, Rou, Ri. Donc, voilà. Ça, c'est indispensable de maîtriser parce que ça revient tout le temps avec dans Bismillahirrahmanirrahim. Donc, l'istitala. Il y a l'istitala qui concerne Abbad. Donc, le Abbad. Donc, le son de la lettre se prolonge au niveau de son point de prononciation. Jusqu'au point du lemme. Donc, va, il touche devant, on a vu. Va, il touche devant. Là, on prononce la. Mais on appuie sur le côté. On a dit va, va. Bou, bruit. Bo, bou, bruit. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez suivre sur l'article. La runa. Il y a la nasalisation. Le runa. La nasalisation, c'est un noun dissimulé qui sort du fond du nez. Khayshoum. En arabe. On prononce la ronna. On prononce la ronna. Donc, au niveau du noun, avec shadda, non, tel que inna, ou mim, avec shadda, tel que lamma, lamma. Donc, et on voit bien dans inna, il y a un son qui sort du nez. Inna, inna, lamma, lamma. Il y a aussi quand le mim sakina suivi d'un ba. Le mim sakina suivi d'un ba. Comme ambi. C'est ambihi, ça devient ambi. Ambi. Donc on va faire une runna. Nun sakina ou tanwin suivi de lettres autres que celles de al-halq, lam et ra. Donc ça on va le voir aussi. Quand il y a nun sakina et tanwin, s'il y a les lettres de al-halq, on va les montrer. Et s'il y a lam et ra, on va faire un idgham sans runna. Et s'il y a les autres lettres, ben, il y aura une runna. Donc ça va venir. Donc le tanwin, c'est quoi? Le tanwin, c'est une nun sakina détectée à l'ouïe, mais pas à l'écrit. Tanwin, c'est comme bon, ton, fon. C'est double haraka, on va dire. C'est ça, tanwin. On entend un noun quand on prononce, mais ça ne s'écrit pas. Quand tu écris ba bun, t'écris pas de. Tu fais un ba avec deux dhamma. Il n'y a pas de noun, mais tu le prononces le noun quand même. Donc ça s'appelle le tanwin. Donc la runna se fait sur une durée de haraka. Donc c'est un rythme en fait, après selon notre rythme. Donc, par exemple, comme la flexion d'un doigt. On ouvre le doigt. Ça fait un temps. Et on ferme deux temps. Alors, les règles, donc, de nun sakina tanwin. Donc c'est bon, il y a l'arabe là. Le tanwin est une nun sakina qui vient à la fin du mot. On l'entend, mais on ne l'écrit pas. Il se prononce dans la liaison, mais non pas en fin de parole. Donc on dit babun, mais quand on s'arrête en arabe, on dit bab. Donc on l'a fait ça. Je l'ai fait dans la première session où j'ai fait le PDF niveau 1. Donc il suffit de revoir. De revoir. Parce qu'après, quand on finira la prononciation, on fera le niveau 2. Inch'Allah. Donc c'est clair pour le tanwin. J'espère que c'est clair. Donc le nun sakina, elle vient dans le mot ou à la fin du mot. Elle est observable au niveau de l'expression, l'écriture, la liaison et l'arrêt. Donc ça, c'est le nun qui apparaît clairement avec ce point. Ça aussi à revoir parce que j'ai montré tout ça dans la première session. Donc, il suffit de remonter dans la chaîne Telegram en haut, on va voir ces règles-là. Ils sont sur la chaîne YouTube de Islam MS. Donc, la nun sakinat obéit à quatre règles du tajwid. Al-idhar, la clarté, c'est montrer. Donc, vous voyez, on l'a expliqué au début, puis ça, le détail de ce qu'on a dit en introduction. Dans la science du tajwid, al-idhar consiste à sortir chaque lettre de son makhraj sans avoir recours à la nasalisation. Il s'agit de la prononciation claire de la lettre sans nasalisation. Ces règles concernent six lettres qui sont les lettres du larynx, al-halq. C'est-à-dire quand il y a nun et après il y a ces lettres-là, ces six lettres-là, on fait pas de règles spéciales, on montre clairement in, le nun, comme min khawf. Wa amalahum min khawf. Pourquoi? Parce que après le nun, il y a le kha. Et le kha, il fait partie des lettres de la gorge. Vous voyez, a et ha tout en bas, au milieu de la gorge, a et ha, et en haut de la gorge, ra et kha. Quand il y a ces six lettres-là après le noun, là, on ne fait pas de règle de hydrame ou de nasalisation spéciale, de runna. On montre normalement la lettre. Min ilah, min ilah, min khawf. Voilà des exemples. Donc, on renouvelle la bonne intention. Toujours, c'est important, mettre la bonne intention, pas en charge de l'agrément de Dieu, pour avoir les récompenses. Comme il dit Ibn Raslan dans le traité, hein, vous voyez, parmi la culture musulmane, donc comme on parlait, il y a le traité Ibn Hajar qui était enseigné au Maghreb sur le minimum de la religion, qui parle de la raison, etc., comme on va revoir après, inchallah. Il y a un livre aussi de ce genre qu'on appelle les résumés, qui s'appelle Matn az-Zubad, qui était enseigné plus au Moyen-Orient. Bah pareil, c'était en forme un peu de poème comme Nourache. Et là aussi, il parle de la croyance. Et là, il dit au début, il dit, aie une intention correcte avant l'acte et fais-la joindre au début de l'acte. Ici, elle dure jusqu'à la fin de l'acte, tu auras les récompenses complètes dans l'au-delà. Donc, parce que il n'y a pas de récompense sans la bonne intention, par recherche de l'agrément de Dieu. Et donc, alors, l'hydrame maintenant. Donc là aussi, on détaille ce qu'on a dit. Selon la langue arabe, c'est le fait d'entrer une chose dans une autre. On rappelle, donc vous voyez, les savants, que ce soit dans le tajwid, dans le fiqh, ils vont dire, alors le mot, il a tel sens linguistique, il a un autre sens religieux.
Il a un sens dans la grammaire. Il a un sens dans la science du tajwid. Donc voilà, donc c'est pour ça là. Si quelqu'un il va lire ou tout seul, il va être perdu. Parce que des fois, ils utilisent un terme dans tel, donc avec telle convention. Donc, il est important d'apprendre la science de la religion par transmission orale. Donc, dans la science du tajwid, l'idgham consiste à faire entrer une lettre dans celle qui la suit immédiatement, à condition que la première soit sakina et la suivante soit mutaharrika, avec une voyelle a, yani, dhamma ou fatha ou kasra. Ainsi, en appliquant le idgham, on aura une seule lettre doublée, mushaddada. Ça, cette règle, on la fait souvent avec justement les deux témoignages. Alors, on dit ashhadu, donc la bonne prononciation avec le tajwid, c'est ashhadu an la ilaha illallah. Là, on a fait cette règle-là, parce qu'à l'origine, c'est marqué ashhadu an la ilaha illallah. Il y a le nun. Après le nun, il y a lam. Et on vient de voir avec le lam. Donc, il ne fait pas partie des lettres de la gorge, mais il fait bien partie des lettres où on fait là carrément un idgham complet, sans même une runna. Et ça, c'est spécial pour le lam et le ra. Et les deux exemples existent dans les deux témoignages. Donc, on va dire, dans la prononciation, il disparaît le nun. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est ça la meilleure prononciation. Sinon, quelqu'un, c'est valable s'il dit Ashhadu an la ilaha illallah. Mais linguistiquement, donc ce n'est pas valable de dire Ashhadu anna la ilaha illallah et de s'arrêter. C'est une phrase qui n'est pas complète. Il faut, c'est un sukun en fait. Ashhadu an la ilaha illallah. Mais le mieux, c'est avec en appliquant la règle de tajwid. C'est le mieux. C'est Ashhadu an la ilaha illallah. Et l'autre exemple avec le ra, wa Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? C'est Muhammadan, il y a un tanwin. Muhammadan Rasulullah, ça devient, on fait un idgham, on n'entend plus le an. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Le deuxième, c'est bien Anna. Le premier, c'est An, qui devient Allah. Et le deuxième, c'est bien Anna. Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah. Maintenant, si on prononce son Ashhadu, je témoigne, on dit directement La ilaha illallah. Là, c'est Muhammadun, c'est pas Muhammadan. Donc, Muhammadun Rasulullah, ça devient avec la règle de tajwid, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Donc, voilà, c'est cette règle-là, en fait, qu'on vient d'expliquer. Donc, il s'agit donc d'une assimilation. En effet, les deux lettres fusionnent, alors ils sont prononcés comme une seule, dont la seconde avec une certaine, donc, voilà, intensité. En fait, on fait une shadda, tout simplement. Le idgham trouve sa justification dans le fait qu'il serait fastidieux de prononcer distinctement deux lettres à la suite proche l'une de l'autre. En fait, le idgham, il est là pour faciliter. Les Arabes, ils facilitaient la prononciation. Comme c'est des lettres proches, ben, on fait une seule lettre. Le idgham permet de faciliter la prononciation par l'assimilation de la première lettre à la seconde. Alors, dans ce chapitre, le idgham concerne six lettres rassemblées dans la parole de Al-Jazari. Donc, on cite souvent Al-Jazari, qui était un imam de la récitation. Et on rappelle, alors, toujours, c'est important de rappeler la culture musulmane. Al-Jazari, le grand imam de la récitation connu dans tout le monde musulman, il a un livre, justement, qu'on appelle Citadelle. Comme l'article-là qu'on a nommé Citadelle, c'est protection. La citadelle forte. Donc, c'est ça que ça veut dire. C'est quoi? C'est des, ici, des évocations. Et dans son livre-là, il cite que il dit min mawadhi' istijabati ad-du'a. Donc, il dit parmi les endroits où on espère être exaucé, c'est les tombes des vertueux. Alors, pourquoi on cite ça? C'est très important. Parce que il y en a, ils vont apprendre la langue arabe, ils vont tomber dans l'extrémisme. Et là, cet imam reconnu dans le monde musulman, incontestable dans l'arrestation, il montre ce qui est connu chez les musulmans. Dans les pays musulmans, ils visitent les tombes des saints en espérant la baraka. Ils n'adorent pas les saints, mais c'est Dieu qui crée la baraka dans des endroits spécifiques, notamment où il y avait les bons musulmans pratiquants. Car le seul créateur de toutes choses, on l'a vu, on le revoit, de nos pensées, de nos actes, de notre volonté, des corps et de leurs caractéristiques, des mouvements, des immobilités, de la froideur, de la chaleur, c'est Dieu seulement. Celui qui ne croit pas ça, ben c'est ça le shirk. Donc c'est important, c'est de la culture musulmane là. Donc très important pour ne pas tomber dans les idées extrémistes des gens qui déclarent mécréants les musulmans juste parce qu'ils vont demander à Dieu la facilité auprès de la tombe d'un compagnon, d'un prophète ou d'un saint. Voilà le grand imam de la récitation qui dit ça dans son livre. Donc vous voyez, ces gens-là, ils maîtrisent la récitation, la langue arabe, le fiqh, la jurisprudence, on verra la médecine, etc., etc., plein de choses. Parce que de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Ah, il a une belle voix, il récite, mais il est ignorant sur les fondements de la religion, ou il dit carrément de la mécréance. Bah, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de récompense sans la bonne croyance. Les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête? Donc, voilà, l'imam al-Jazari, alors, il rassemble pour faciliter, on a dit, les moyens mnémotechniques. Mais il donne un mot qui a un sens, et dans ce lettre du mot, ben, il y a les lettres en question dont il est question ici. Yarmaloun. Le ya, le ra, le ma, le lem, le wa ou le na. C'est dans ces lettres-là qu'on va appliquer cette règle de l'idgham. On en a vu deux juste avant, juste dans Shahadatayn. Le lem et le ra. Dans le lem et le ra, c'est les deux seules lettres. Il y aura un idgham, une assimilation complète sans runna. On l'a vu clairement. Donc, vraiment, c'est l'occasion de le maîtriser, c'est les deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Voilà, il y a deux règles, on l'a vu ici. Le lam yara. Il reste les autres. On enlève le lam yara, ils disent yanmu. Ils font un autre mot avec les lettres qui restent. Pour mémoriser aussi, à savoir le ya, le nun, le mem, le ma et le wa. Là, il y aura un idgham qui n'est pas complet, mais avec runna, donc il sera. Et on va voir les exemples. Alors, le idgham sans runna, voilà, on revoit. On dit une chose et on la redit. Le idgham sans runna, idgham kamil, complet, concerne le lam et le ra. On vient juste de voir, mais juste on répète. C'est un idgham complet et total. Le nun et la runna disparaissent, c'est ce que je viens de dire, du fait de la proximité des points de prononciation makharij. Mallam, mallam, mir rabbikum. Mallam, ça devient mallam. Min rabbikum, ça devient mir rabbikum. Dans Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu, ça devient wa lam yakul lahu kufuwan ahad. On fait une shadda et le nun disparaît. Donc voilà, on a vu des exemples avec ça. Et dans Shahadatayn, on a vu l'exemple. Alors, Le idgham, avec ghunna maintenant, c'est ce que je viens de dire, concerne les quatre autres lettres rassemblées dans la parole de Al-Jazari, le grand imam de la récitation, Yanmou. Yanmou, c'est pousser, en fait. Voilà, il te donne un mot et là, chaque lettre du mot, ben, ça concerne la règle. Dans ce cas, le tajdid doublement n'est pas complet, donc le idgham est qualifié de partiel, car la première lettre, noun, est assimilée et disparaît alors que le son lui correspondant, la ghunna, reste maintenu et persiste. Donc, ça reste, donc à la place de noun, il y aura une ghunna, en fait, quand même, qui. Donc, man yaqoum, ça devient man yaqoum, man yaqoum, man yaqoum, man yaqoum. Donc, le man yaqoum. Donc, ça revient souvent. Donc, ceci ne vaut que dans le cas d'une liaison. À l'intérieur d'un mot, on ne fait ni idgham ni ghunna, afin de ne pas tomber dans la confusion avec d'autres mots qui, à l'origine, contiennent la même lettre doublée. D'ailleurs, quand il y a ces, il y a, on fait ça quand il y a le noun dans un mot, dans la fin d'un mot, et le ya ou le noun ou le ma ou le wa dans le mot suivant. Mais c'est si les deux sont dans un seul mot, on ne fait pas cette règle-là, en fait. Dunya, dans le mot dunya, il y a le nun et le ya. On va pas dire dunya, non, là, non. Parce que c'est les deux lettres de la règle, ils sont réunis dans le même mot. Ça s'applique pas dans cette règle-là. Ça s'applique quand ils sont chacun dans un mot. La fin d'un mot, puis l'autre avec l'autre, le début du mot suivant. Donc, al-iqlab, la transformation, selon la langue arabe, c'est le fait de transformer quelque chose de son état. Dans la science du tajwid, al-iqlab consiste donc à transformer une lettre en une autre avec ikhfa, dissimulation pour tenir en compte. Pour tenir compte de la runna. Donc cela consiste donc à substituer une lettre à une autre lettre. La nun sakine et le tanwin devant un ba se transforme en mim dissimulé. Donc le nun sakine et le tanwin devant quand il y a un ba, il se transforme en mim. Min ba'di, ça devient quoi? Mim ba'di. Mim ba'di. Anbi'hum, ça devient anbi'hum. Anbi'hum. Mim ba'di. Iqlab ne s'applique qu'avec la langue sakina suivie d'un ba dans un mot ou alors d'une liaison. Pour tenir en compte la runna. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, on va essayer de prononcer. De haraka. Donc là, il n'y a ni idhar, ni idram. On ne fait pas d'idram, ni idhar, mais il y a une runna quand même. Vous voyez, il n'y a pas de doublement. Mim ba'di. Ambi'hum. C'est consiste à transformer une lettre en une autre avec ikhfa, dissimulation. Donc, il y a une dissimulation. Et il y a une runna. Et une runna, je vais remplacer, et une runna, tout simplement. Alors, on va reprendre. On va prononcer. Donc, on reprend où il y a le drame complet. C'est alors le lam et le ra. Donc, malam. Donc, malam, ça devient malam. Donc, vous pouvez répéter. Malam. Malam. Min rabbikum, ça devient mirrabbikum. Mirrabbikum. Voilà. Donc ça, c'est l'idgham complet. Maintenant, l'idgham avec runna dans les quatre lettres. Ya, nun, ma, et wa. Exemple. Mayakoum. Mayakoum. Vous voyez, donc il y a une shadda et il y a une runna. Mayakoum. Très bien. Donc, bon, il y a d'autres exemples, on verra, inshallah. Après, on a l'iqlab, la transformation. C'est quand il y a le nun sakina et le tanwin 2. Après, il y a un ba, ça se transforme. On mime dissimulé, ça se transforme. Vous voyez, même dans le mushaf, il vous dessine un petit mime au-dessus de la lettre. Donc, mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di. Très bien. Et Ambi'hum, ça devient Ambi'hum, Ambi'hum, Ambi'hum. Très bien. Maintenant, l'Ikhfa. Ikhfa, c'est la dissimulation. Donc, là, dans la science du tajwid, l'Ikhfa consiste à prononcer une lettre de façon intermédiaire entre l'Idra et l'Idra, sans tajdid et avec runna. Là, donc, on ne transforme pas, mais on va cacher, on va dissimuler, et alors on va remplacer par une runna. C'est donc l'émission dissimulée de la noun et du tanwin entre la prononciation claire et l'assimilation. Le son de la noun est clair mais nasalisé. Les lettres concernées sont celles qui n'ont pas été précédemment citées, justement. Donc, ni les lettres de la gorge, où clairement on ne fait rien, ni les lettres de Yarmaloun, où on fait ou l'amira, on fait idgham complet sans runna, ou yanmou, les lettres de dans yanmou, on fait un idgham, donc avec runna, donc partiel, et le ba, c'est on fait un iqlab, ça se transforme en mime. Le reste, on fait un irfa, une dissimulation. Les lettres concernées sont celles qui n'ont pas été précédemment citées, autrement dit, les 15 lettres qui ne sont ni celles de Al-Halq, ni Ba, ni les lettres de la parole Yarmaloun. Alors, pareil, ces lettres sont les initiales du vers de poésie de Al-Jazali, l'imam Al-Jazali. Donc, voilà ce grand imam. Donc, il fait un vers. Il te dit, donc c'est Sif dha fana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dha dhalima. C'est les initiales, le sod, le dha, le fa, le ka, le ja, le sha, le qa, le sa, le da, le ta, le za, le fa, le ta, dha et dha. Comme minsou, minsou. Donc, on ne va pas faire ni de igram, ni de iqlab, on ne va pas transformer en mime. On ne va pas montrer clairement, on ne va pas dire minsou. On va faire la règle, minsou, minsou. Donc, vous pouvez répéter, minsou. Mankan. Voyez, donc c'est ça, il y a une dissimulation. Voilà, donc déjà, on a avancé. Et on poursuivra la fois prochaine sur ça. On va réciter, donc comme on l'a fait, alors la Fatiha. Et après, on fera quelques... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين reprendra après l'arrestation. Là, on passe à sur la suite, sur la raison et les preuves rationnelles et sur la croyance. Inch'Allah, à la fin, on refera l'arrestation et des invocations de protection. Alors, on a vu, très important, les règles rationnelles. Donc, on a interrogé et, inch'Allah, il y en a, ils ont répondu. La raison est une caractéristique que Dieu a créée dans l'être humain, les anges, les djinns. C'est une caractéristique, donc, et par laquelle on distingue le vrai du faux. Il y a le jugement rationnel qui se divise en trois, l'obligatoire, le possible et l'impossible. Et on a vu et on a insisté que la réalité ne change pas, l'impossible ne se transforme pas en possible. Et on a montré des preuves très importantes qui vous protègent. On peut être exposé facilement. Des gens, ils peuvent même toquer chez vous, vous interpeller dehors pour vous faire égarer. Et j'ai montré des exemples concrets, vécus, de gens qui s'égarent, ils disent la mécréance, ça veut dire qu'ils perdent toutes les hasanates. Et s'ils ne reviennent pas à l'islam, c'est l'enfer pour l'éternité, bien évidemment. Et la prière, le jeûne ne seront pas acceptés. Donc, c'est parce qu'ils ignorent ces règles-là et ils vont démentir les règles rationnelles, ils vont rendre possible l'impossible. Donc, j'ai donné pas mal d'exemples concrets et des gens réputés, connus, qui tombent aussi dans l'égarement en faisant des débats avec des gens qui leur posent des questions pièges. Donc, dans lequel ils rendent possible l'impossible. Et ça, c'est un blasphème. Et il ne s'est pas excusé parce qu'on a la raison. Quand est-ce qu'on est excusé? C'est-à-dire, ce n'est pas noté sur nous quand quelqu'un n'a pas la raison. Quand il est fou, vraiment, médicalement. Mais quelqu'un qui a la raison, il n'a pas d'excuse s'il a démenti les règles rationnelles. L'islam est la seule religion conforme à la raison. Rationnellement, tout ce qui est une forme, une quantité, une localisation, c'est un corps. Et créé, a besoin de qui l'a spécifié, donc ne peut pas être Dieu. Donc adorer un corps, c'est un blasphème. Imaginez un vieillard qui serait sur un trône, adorer une vache, une statue, des rats, des serpents, ou des statues, ou le soleil, la lune, ou le feu, c'est adorer un corps. Le corps, il y a deux sortes de corps, palpables ou impalpables. Corps palpable, c'est ce qu'on saisit à la main. Les corps impalpables, c'est ce qu'on ne saisit pas à la main, comme l'air, l'obscurité. Et on adorait une caractéristique, l'imagination. Adorer, donc une créature, car l'imagination aussi est créée. La croyance musulmane, on répète à retenir par cœur, croire que ce monde est un créateur qui n'a pas de forme ni de quantité, qu'on ne peut pas atteindre sa réalité, et qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, et qu'il existe avant l'espace et le temps, qui ne change pas, qui n'a besoin de rien, qui entend, qui voit, qui parle sans langue ni lèvres, et qui sait toutes choses avant qu'elle n'arrive. L'islam, c'est la religion de vérité, la religion de tous les prophètes. Donc on a dit aussi une chose très importante quand on dit Dieu est sur toute chose tout-puissant, la puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison, ne concerne pas l'obligatoire ni l'impossible. La puissance de Dieu ne concerne pas l'obligatoire ni l'impossible. Donc alors comment on répond à ces questions pièges? On l'a vu à retenir vraiment par cœur. On dit, toujours je donne la réponse, c'est plus facile. Avant de donner donc ces questions pièges, on dit cette chose est impossible, rationnelle, et la puissance de Dieu, donc la chose impossible, rationnelle, il n'est pas valable qu'elle soit concernée par la puissance de Dieu. Ce qui est impossible, rationnel, n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Parce que l'impossible n'admet pas la confirmation. C'est absurde. On a dit, par exemple, un objet, un corps, c'est impossible qu'il soit en mouvement et immobile à la fois, c'est de l'absurde. Bouger et pas bouger en même temps, c'est contradictoire, donc c'est de l'absurde. C'est un exemple clair. Donc, l'impossible, n'admet pas la confirmation. Donc, l'impossible n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Donc on a expliqué ça, bien sûr, après plein de cours qu'on a donnés, des dizaines, dizaines. Donc ceux qui arrivent maintenant, ils doivent bien sûr revoir les cours précédents. Bien que ça, c'est facile, mais on a besoin quand même de voir et de revoir ce qui a été dit. Donc des heures d'explications qui ont été dites précédemment. Donc, mais ça, c'est un sujet très important. Et on a montré les preuves que l'islam est conforme à la raison et que la raison, c'est un témoin de la vérité de l'islam. On a montré les versets, beaucoup de preuves là-dessus, que nous, les sunnites, on suit le juste milieu. Ce n'est pas les gens du côté des Mu'tazilites et des philosophes qui vont faire que la raison, c'est la base, en délaissant ce qu'ont dit les prophètes. Et ce n'est pas les extrémistes qui vont renier la raison complètement. Les sunnites, c'est un juste milieu. La raison, ce n'est pas la base pour savoir les obligations et les interdictions. Ce n'est pas la base de la religion, mais c'est un témoin de la vérité de l'islam, à savoir donc tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Donc toute explication, tout tafsir qui est donné, qui contredit la raison, c'est forcément qu'il est faux. Le prophète ne dit pas ça, le Coran ne le dit pas. Des choses contraires à la raison. Donc la ayah, on a dit à retenir par cœur. C'est-à-dire, ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Sourate Al-Mulk, verset 10, qui montre clairement que si on ne suit pas la raison, on s'égare. Au contraire de ce que disent les extrémistes. Donc, alors on a dit la réponse à ces questions pièges. Donc, je répète toujours avant de montrer les questions pièges, parce que c'est des questions dangereuses pour l'ignorant. Et on a montré comment il a été rapporté que Iblis, il a même dit à ses disciples, qui est le plus difficile pour nous? Celui qui est ignorant et qui pratique, ou celui qui a la connaissance, mais il fait des péchés? Il leur a dit, mais c'est celui qui a la connaissance, même s'il fait des péchés. Allez-y, posez une question aux deux. La question piège, on va dire, c'est quoi? Et là, celui qui est ignorant et fait des adorations, il est tombé dans la mécréance. Mais l'autre, qui avait la connaissance, même s'il faisait des péchés, il s'est préservé, il n'est pas tombé dans la mécréance. La science va te protéger. Donc, comment on répond à ce genre de questions? On dit. Donc, l'associer à Dieu est impossible. Le corps, la quantité, le changement, la quantité, l'anéantissement, c'est impossible rationnellement au sujet de Dieu. Et la puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est impossible. L'impossible n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Voilà la bonne question, la bonne réponse. Alors, Iblis, qu'est-ce qu'il a dit? Iblis, il dit, mais aussi il y a d'autres, parce qu'il y a les shaitans des humains. Tu trouves des shaitans des humains, tu peux rencontrer même dans la rue, où ils peuvent toquer chez toi, et, ou dans le marché, et tout ça, on l'a rencontré. Et ils peuvent te dire ce genre de questions que Iblis, il a dit à ses disciples. Enfin, donc, pour tester l'ignorant et celui qui a la connaissance. Donc, la question, donc toujours quand on parle d'une chose contraire à l'islam, on utilise un discours rapporté. En disant, si quelqu'un dit, ou l'auteur a dit, que ce soit pour parler ou écrire ou afficher, il faut un discours rapporté, si c'est une chose contraire à l'islam. Donc, il leur a dit, Iblis, dites, posez la question. Donc, il a dit, Iblis, à ses disciples, posez la question, est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu que lui? Donc, vous voyez, ce genre de questions, il y en a plein d'exemples de ce genre de questions. Donc, le mec, celui qui est ignorant, il est tombé dans la mécréance. Et d'autres gens qu'on a vus en direct sont tombés dans la mécréance. Il a dit oui, c'est une mécréance, claire. Donc, ça, je l'avais expliqué la dernière fois. Et celui qui a la connaissance, il n'est pas tombé dans le piège. Donc, ici, c'est un piège. Car l'associer au sujet de Dieu, c'est impossible rationnel. Et l'impossible ne peut pas exister. Donc, la puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible. L'impossible n'existe pas. Donc, c'est ça la réponse. La puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est impossible. Donc, ça vous sauve. Dieu dit dans le Coran, wa qul rabbi zidni ilma, qui signifie dit, oh Allah, augmente ma connaissance. Toujours, on renouvelle la bonne intention. Et donc les exemples, il y en a beaucoup. Il peut, alors, et on le voit. Ceux qui disent que Dieu a un fils, ils vont dire Dieu est tout-puissant, alors il peut avoir un fils. Ce cadre une vache, il va dire Dieu tout-puissant, il peut être une vache. Ou l'athée, il va dire Dieu va s'anéantir, etc., etc. Plein de ceux qui attribuent à Dieu l'habitation du ciel. J'ai vu des gens, pourtant ils parlent arabe, c'est des maghrébins, ils disent cette mécréance. Ils disent Dieu, il fait ce qu'il veut, il a créé le ciel et puis il est rentré dedans. C'est la même chose que celui qui adore une vache qui dirait que Dieu il s'est transformé en vache. C'est la même chose. C'est rendre possible l'impossible. Tous ces exemples, c'est rentre dans quel cadre? C'est rendre possible l'impossible. Donc, vous voyez, on peut s'exposer facilement au piège. Et je rappelle qu'en culture musulmane, ça a été enseigné à 7 ans. Parce que des gens ils disent, ah, mais je ne comprends pas ces philosophies, ça. Mais parce que, comme il a dit un savant, quand on ne connaît pas ce qui est ancien, on ne sait pas ce qui est nouveau, parce qu'on n'a pas de référence. Et le prophète, il a dit, la religion, elle a commencé étrange, elle va devenir étrange. Tellement les gens, ils baignent dans l'ignorance, ils s'étonnent quand tu leur expliques des choses. Il n'y a pas très longtemps, ça a été expliqué à 7 ans. Donc, par exemple, nous parlons en connaissance de cause. Au Maghreb, dans Matmounourach, elle commence par les règles rationnelles, elle était enseignée à 7 ans, en Tunisie, en Algérie, au Maroc. En rappelant que Ibn Hachel, c'est un savant de Fès, qui est enterré à Fès. Il y a sur sa tombe, il y a les quelques vers de ce traité-là sur la stèle de sa tombe à la cimetière à Fès. Donc, voilà la réponse à ce genre de questions pour ne pas tomber dans le piège. Le corps, la quantité, la localisation, le changement sont impossibles aux yeux de Dieu. L'impossible ne peut pas devenir possible. L'impossible n'est pas concerné par la puissance de Dieu. Voilà la réponse intelligente. Mais si quelqu'un déjà, même le prophète l'a montré dans un hadith, on voit ces gens-là comment ils sont égarés, donc comment ils sont ignorants. Vraiment profondément. Et donc, parce que quelqu'un déjà qui connaît pas les détails, l'argumentation, Il pourrait agir comme le prophète nous a montré dans le hadith où le prophète nous parle du waswas du shaitan. Et il dit, shaitan, il vient à l'un de vous, il dit, qui a créé ça? Qui a créé ça? Après, il dit, qui a créé Dieu? Le prophète, il dit quoi? Tu dis, Amantu billahi wa rasuli. Tu réponds même pas. Lui, il ne cherche pas à apprendre. Lui, il veut t'embêter. Tu dis, j'ai cru en Allah ou ses messagers. Si ces gens-là, vraiment, ils avaient un petit peu de foi, ils auraient dit au moins ça. S'ils n'avaient pas comment répondre, ils disent, je crois en Allah ou son messager, ils s'arrêtent là. Là, ils seraient sauvés. Mais on voit que il a, pour attirer l'intention, il dit maintenant, même ailleurs, il dit ça, il dit une belle parole. Il parle de al-jahl al-murakkab. Ça veut dire quelqu'un, il est ignorant et il pense qu'il sait. C'est ça. Il y a l'ignorant simple, celui, il est ignorant, il sait qu'il est ignorant. Et il est plus facile, celui-là. Parce qu'il reconnaît qu'il est ignorant, il veut apprendre. Mais dangereux, celui qui, il l'appelle en arabe jahl murakkab. Bon, on pourrait traduire, bon, tarkib, ça veut dire composé, ignorant composé. C'est-à-dire, il est ignorant, il ignore qu'il est ignorant, c'est ça. Ils disent comme ça. Il est ignorant et il ignore qu'il est ignorant. Donc, il y a une composition d'ignorance, quoi. Jahl murakkab, il l'appelle en arabe. Parce qu'on voit quand même. Si quelqu'un il avait un minimum de foi, il aurait dit, je crois en Allah et en son messager, comme il a dit le prophète, tu rentres pas, c'est un shaitan, lui, qui te parle, tu rentres pas. Mais c'est des gens, voilà, ils ont une mauvaise croyance dans le cœur, tellement ils sont ignorants. Ils vont dire, Dieu peut avoir un fils ou peut s'anéantir, des choses comme ça, et ce qui revient à rendre possible l'impossible. Et c'est de la mécréance. Donc alors, il y a des gens, pareil, aussi, ça rejoint, c'est des gens qui disent, ouais, mais lui, il a grandi sur ça. Mais Dieu nous dit justement, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا. Donc, je vous indique, yani, ceux qui sont, sont égarés, dont les œuvres sont vaines, ils sont égarés et ils pensent faire le bien. Ils sont égarés et ils pensent faire le bien. Donc, penser faire le bien ne suffit pas parce que la croyance qu'il suit là, elle est contraire à la raison. Et donc, et ça, on en parle dans les mosquées musulmanes, hein, ce qu'on dit là. Par exemple, là, tiens, Mohammed ibn Ahmed Mayyar al-Maliki. Voilà, c'était l'ami de l'autre là. Abdelwahid ibn Ashir, il y avait son ami Mayyar qui expliquait son livre. Et ce livre-là est très connu, on trouve presque dans toutes les mosquées au Maghreb, Ad-Durr al-Thamin. Il y a Al-Kubra al-Sughra. Explication de ce traité de base, Murshid al-Mu'in ala Daruri al-Ulum. Il explique le passage Awwal wajibin ala man kulli fahm mumakkana min nadharin an ya'rif Allah wa ar-rusula bis sifati mimma alayhi nasab al-ayat. La première chose, yani, sur la personne responsable, qui a la raison, il doit connaître Allah selon ce qui est digne de lui et les messagers avec les attributs. Les attributs de Dieu et les attributs des messagers. Selon les preuves, donc il y a. Donc il dit, la connaissance obligatoire, c'est la certitude conforme à la réalité et avec une preuve. Il a dit, ne rentre pas dans cela celui qui a une foi basée sur le doute ou la supposition ou l'imagination. Sa foi, elle est invalide selon l'unanimité. C'est-à-dire, il doute, il dit, ah, peut-être c'est vrai, bon, allez. Et on trouve des gens comme ça. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas la certitude en cette vérité-là, C'est pas accepté. Et là, ça vient à ce qu'on a dit. وخرج بوصف مطابق الجزم غير المطابق ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب كاعتقاد الكافرين التجسيم والتثليث ونحو ذلك والإجماع على كفر صاحبه أيضا وأنه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلد. Il dit, ne rentre pas dans, il faut que ce soit conforme à la réalité. Il faut une certitude conforme à la réalité. S'il a une certitude ou quelque chose qui est faux, ce n'est pas utile, il a dit. Et ça s'appelle une fausse croyance. Et le jahl al-murakkab, c'est là, ignorance composée. Il a une certitude ou quelque chose qui est faux. Et donc il est ignorant, il ignore qu'il est ignorant. Il croit qu'il connaît la vérité comme ceux qui adorent des vaches, il croit qu'il est sur la vérité, lui. Il a une certitude en quelque chose de faux. Il a la certitude, mais en quelque chose de faux. Donc, vous voyez, en fait, bien que, bon, ils ont une rhétorique assez soutenue, mais c'est facile, en fait. On l'appelle la fausse croyance, l'ignorance composée. Il a dit, il donne l'exemple. Il dit, qu'artiqad il kafina tassim, comme les mécréants qui croient on a un corps. Donc ceux qui attribuent le corps, comme les extrémistes wahhabites ou les autres religions qui adorent des corps, en fait. Toutes les autres religions, ils adorent un corps. Donc avec l'islam qui dit que Dieu n'est pas un corps. Parce qu'ils adorent ou un corps palpable, ou un corps impalpable, ou il y en a, ils adorent carrément une caractéristique, une imagination. Il dit, comme la croyance des mécréants, ils attribuent à Dieu le corps, ou la Trinité, Tafsir, il dit, ou ce qui est du même genre. Il dit, il y a l'unanimité que celui qui croit ça, il est mécréant. Et qu'il est dans le péché, il n'a pas d'excuse, il restera éternellement en enfer. Ijtahada ou qallada. Qu'il a trouvé ça avec un effort, il a fait un effort, il a trouvé comme ça. Donc il s'est trompé dans le raisonnement. Ou qallada, ça veut dire qu'il a suivi d'autres gens. Dans les deux cas, il n'y a pas d'excuse et il a dit, il reste éternellement en enfer. C'est-à-dire, il explique ça de manière, c'est quelque chose de connu, ça, c'est indiscutable. Donc, je l'ai traduit sûrement quelque part dans les articles. Là, j'ai lu la version arabe, mais ça doit être traduit quelque part, parce que c'est tellement intéressant que je l'ai mis. Et puis, voilà, donc, voilà l'explication. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Alors, ça a une parenthèse très importante. Alors, on revient sur les règles de la raison. Voilà. Donc, voilà que se rendre possible l'impossible, donc ça rentre dans ce cadre-là. Il a dit c'est la mécréance et une mécréance selon l'unanimité, donc attribuer à Dieu le corps. Donc, c'est de la mécréance. Et donc, pour de ce genre de questions pièges, on ne répond pas par oui ni non. Donc, on a vu comment le prophète nous montre où tu dis j'ai cru en Allah, en ses messagers, et tu arrêtes là. Ou tu argumentes que ça, c'est une chose impossible. Et la puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est impossible. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Donc, la puissance de Dieu concerne ce qui est possible, rationnel. Par sa puissance, il crée, il anéantit. Maintenant, on va donner, voilà, des choses qui sont impossibles, d'autres exemples pour donc faire attention. Pour faire attention. C'est que, donc, il y a des choses que les gens, dans les films, ou des choses, on entend, mais qu'on ne peut pas répéter comme ça, bêtement. On a dit, les anges, leur ribérati, d'une note ce qu'on dit. Et Dieu nous montre. Par exemple, Faqala ana rabbukumul a'la. Il a dit, je suis votre Seigneur, en parlant de Pharaon. Waqalat il Yahoud Uzaymullah. Les Yahoud, ils ont dit, Uzay, fils de Dieu. Waqalat tu utilises un discours rapporté. An-Nasara, ils ont dit Jésus, fils de Dieu. ils ont dit que les non-musulmans, ils ont dit que l'homme descend du singe. Quand c'est contraire à l'islam, il faut utiliser un discours rapporté pour que les anges ne notent pas contre toi. Et on l'a vu, tu ne peux pas provoquer quelqu'un à dire la mécréance ou l'aider à dire la mécréance en islam. Même dans un débat, etc. Comme il a montré à Abu Hanifa, il a dit, nous, on fait le débat comme s'il y avait des oiseaux sur notre tête de peur de faire glisser l'adversaire. Car celui qui veut faire glisser l'adversaire, il s'égare avant l'adversaire. Tu ne peux pas provoquer quelqu'un à faire le mal, par une question ou autre. Donc, ça nous montre qu'il faut bien maîtriser avant de parler. Et si tu veux expliquer à quelqu'un, tu expliques directement. Tu ne lui fais pas dire une bêtise, soi-disant, pour lui répliquer, parce que le but dans l'islam, c'est que tu veux le bien pour les gens. Ce n'est pas que tu veux que les gens disent une bêtise et tu veux montrer que tu veux les corriger et que toi, tu peux les corriger. Non. Le but, c'est de leur, au final, de leur montrer la vérité. Le musulman, il veut le bien, la guider pour les gens, en sachant que Dieu fait ce qu'il veut et que Dieu a voulu que des humains et des djinns vont en enfer, comme on a vu les versets. Il a guidé certains et il a égaré d'autres parce que la notion très importante qu'on a répétée, que Dieu n'est pas obligé de donner à l'être humain ce qui est le mieux. Il donne par sa grâce, il prive par sa justice, il guide par sa grâce, il égare par sa justice. Donc voilà la notion très importante. Et donc, alors, on a dit, voilà, le corps, le changement, c'est impossible aux yeux de Dieu. On a vu des choses impossibles, des exemples. La réunion de deux choses impossibles est c'est impossible selon la raison. La réunion de deux choses opposées est impossible, comme la vie, la mort, le mouvement et l'immobilité. En même temps, ça ne peut pas se réunir dans un seul corps. On va donner quelques exemples aussi pour éviter de. Surtout, il y a des jeunes, les gens. Voilà, ils regardent des séries de science-fiction, etc. Ils sont abonnés là et là. Donc, dans l'islam, il faut faire attention. Faut faire attention. Donc, quelqu'un qui. On ne peut pas voilà, jouer à un jeu, ben, soi-disant, le personnage se prétend Dieu. Ou il prétend, soi-disant, combattre Dieu. Et on ne peut pas répéter des choses de ce genre. On utilise un discours rapporté ici, voilà, pour on a be besoin de raconter une chose contraire à la religion. On utilise un discours rapporté. Donc, un autre exemple, je vais donner. Donc, c'est cette notion-là que donc il faut pas répéter. Donc, d'abord, on va expliquer la vérité. Comme tout à l'heure, j'explique la réalité. La réalité, c'est que on a dit chaque instant est créé par Dieu. Chaque instant est créé par Dieu. Hier, c'est du passé, il n'existe plus. Demain, ça n'existe pas encore. C'est ça, donc la réalité. Que chaque instant est créé par Dieu. Donc, il faut pas croire des choses de science-fiction du genre que il y a des choses, soi-disant, monde parallèle dans le sens, il y a des gens qui sont dans un autre monde et qui vivent en 1800 et puis tu peux remonter. Ça s'appelle impossible rationnel. Et le futur aussi n'existe pas encore. Donc, c'est impossible rationnel d'aller vers le futur ou d'aller vers le passé. Donc, c'est une notion facile et très importante. Donc, chaque instant est créé par Dieu. Dieu peut anéantir le monde en un instant. Et le passé, il n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Donc, c'est contraire à la raison de prétendre le contraire. En arabe, ils disent tahsil al-hasil, c'est-à-dire on ne peut pas faire ce qui est déjà fait. Dans le sens. Que quelqu'un il est dans la pièce, tu ne veux pas rentrer dans la pièce alors qu'il est déjà dedans. Dans le sens, on ne peut pas effacer le passé. Il a existé, tu ne veux pas effacer ce qui a déjà existé. Donc, ce qui a existé, il est passé. Le futur n'existe pas encore. Et chaque instant est créé par Dieu. Donc, ça, c'est une notion facile, mais qui nécessite l'assimilation pour la comprendre. Donc, je dis ça parce qu'on voit des gens, voilà, des films, des séries, ils sont emportés, ils vont répéter bêtement des choses, mais ça peut être grave pour eux. Parce qu'on est pubère facilement, hein, donc c'est pas à 20 ans qu'on est pubère, donc bien avant. Pubère parce qu'il y a puberté, c'est là qu'on note, les anges notent sur nous. Et c'est là, généralement, les gens à la puberté qui regardent ce genre de choses, généralement. Et des gens tellement ils sont loin, ils croient qu'il est jeune, ça y est, quand il sera adulte, qu'il sera. Non, des gens, ils meurent jeunes tous les jours. T'es pubère, même à 12 ans, si t'es pubère, ça y est, t'es comme un homme. Les anges, ils notent. Si t'as dit une mécréance et tu meurs dessus, c'est l'enfer pour l'éternité. Parce qu'on a dit pubère, saint d'esprit, qui a entendu la base de l'appel à l'islam. Donc, ça n'existe pas, monde parallèle. Chaque instant est créé par Dieu. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Donc voilà, ça restait ces exemples-là à dire quand même. C'est pas compliqué, c'est facile. Voilà, les gens avant, ils apprenaient les choses de base à 7 ans. Donc il n'y a pas de raison que les gens qui ont beaucoup plus âgés que ça, donc il n'y a pas de raison qu'ils apprennent pas ça. Donc c'est des choses faciles. Et donc la connaissance permet à la personne d'éviter de dire des bêtises. Voilà, donc il ne faut pas contredire, on a dit rendre possible l'impossible. C'est impossible, quelqu'un, soi-disant, hop, il appuie sur un bouton, il revient 100 ans en arrière, et puis il change. C'est la notion, en fait, faire ce qui s'est déjà fait. Il ne peut pas effacer ce qui a déjà existé. De toutes les manières, c'est impossible rationnel. Et puis la puissance de Dieu concerne ce qui est possible. Ne concerne pas l'impossible, mais l'obligatoire. Donc, l'impossible, il faut voir ça pour être plus facile dans le sens de l'absurde. L'absurde, ça reste absurde. Comme j'ai donné l'exemple, si tu divises une pomme en deux, la moitié de la pomme ne peut pas être plus grande que toute la pomme. C'est illogique. Une partie d'une chose, c'est forcément plus petit que toute la chose. Sinon, on a changé le langage, là, ça y est. Là, ça devient le fou là qui s'exprime. Voilà. Donc tout ça pour montrer que c'est facile d'accès et qu'il ne faut pas paniquer. C'est des choses très faciles et qui étaient enseignées aux jeunes. Donc ça permettait aux gens justement de ne pas être devenir athées parce que des gens, il a fait 10 ans d'études pour devenir athée. Donc vraiment c'est stupide. Donc ça montre que ce n'est pas la quantité d'informations, c'est la qualité. Donc, pareil, concrètement, avec ces preuves, nous-mêmes, on a parlé avec des gens, en quelques mots, ils sont bloqués, alors qu'ils ont fait, je ne sais pas combien d'années d'études. Donc, voilà les preuves, l'islam est la vérité, la seule religion conforme à la raison. Donc, j'espère que c'est clair. Est-ce que, donc, il y a besoin de répéter une notion, ou c'est clair? On a dit, chaque instant est créé par Dieu. Donc, il y a une succession de créatures. Ce qui est passé, ça y est, ne revient plus. Le passé ne revient plus et il ne peut pas s'effacer. C'est une impossibilité rationnelle. Et le futur n'existe pas encore. Et puis, bien sûr, chaque chose est créée, voulue par Dieu, est prédestinée par Dieu. Donc, vous voyez comment l'islam, preuves sont très, très fortes. Et c'est pour cela, les colonisateurs, ils fermaient l'enseignement. Pourquoi ils fermaient l'enseignement? La mosquée, dans la mosquée, on ne fermait pas des fusées ou des chars d'assaut. Pourquoi alors fermer les mosquées? Parce que les gens, ils apprennent la religion correctement, ils vont savoir raisonner. Et bien sûr, celui qui est attaché à sa religion, ben, on ne peut pas l'acheter avec l'argent. Et donc, parce que ces gens-là, ils veulent le mal, en fait. Donc, notre force, c'est de maîtriser notre religion. Ce n'est pas crier et faire n'importe quoi, c'est maîtriser la religion. Donc, Dieu nous donne l'exemple quand Pharaon, il a ramené les magiciens. Les magiciens, pour défier Saïdina Moussa, ils ont vu que Moussa, c'est un prophète, parce que ce n'est pas la magie ce qu'il a fait. C'est un miracle, c'est une chose extraordinaire, et donc ça, on va y revenir aussi. Donc, eux, ils ont compris que ce n'est pas de la magie. Donc, forcément, on doit le croire. Quelqu'un que Dieu lui donne un miracle, une chose extraordinaire, et qui dit qu'il est prophète, c'est que Dieu le confirme. Donc, forcément, c'est un devoir de le croire. Ils se sont convertis à l'islam. Donc, Pharaon, avec toute la force qu'il a, bah, il les a menacés de les tuer, mais ils ont dit, étaient plus forts que Pharaon. Pourtant, lui, il a plus de force physique. Mais eux, ils étaient plus forts que lui en s'attachant à la vérité et qu'ils ne pouvaient pas leur enlever cette vérité. Même s'ils les tuent, ils lui ont dit que la douleur que tu infliges, elle est passagère. C'est une douleur dans le bas monde. Et c'est éphémère. Même la douleur, le plaisir est éphémère dans le bas monde et la douleur aussi. C'est ce qu'on comprend des versets où il y a cette donc discussion. Pharaon avec les magiciens. C'est-à-dire, ce sens-là, c'est que même si tu nous tues, ben, ce sera une douleur passagère. Alors, celui qui meurt mécréant, la douleur de l'enfer, elle est sans fin. Donc, c'est eux qui ont gagné au final. C'est vrai qu'il les a tués, mais qui a gagné au final? Ben, c'est eux. Parce que lui, quelque temps, il est resté quelque temps, puis il est mort. Après, il aura un châtiment sans fin. Eux, ils sont morts, ils auront une félicité sans fin. Alors, c'est qui gagnant? C'est celui qui meurt sur la croyance de l'islam. Et Allah dit dans le Coran, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Donc, c'est-à-dire, ceux qui te suivent, ceux qui suivent les prophètes, ici ça parle de Isa en fait. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. C'est-à-dire, ceux qui suivent Isa, c'est ceux qui suivent Mohammed. Qui suit Isa? Ceux qui suivent Mohammed. Qui suit Moussa? C'est celui qui suit Mohammed. Donc celui qui ne suit pas Mohammed, il ne suit pas Isa. Car pour suivre les prophètes, il faut suivre Mohammed et tous les prophètes. Donc ceux qui te suivent sont au-dessus des mécréants jusqu'au jour dernier. Donc celui qui a la vérité, il est au-dessus des mécréants. Parce que celui qui a la vérité, il va gagner sans fin. Alors que l'autre, il peut faire du mal quelque temps, mais ça sera éphémère. Il faut s'attacher à cette vérité et la maîtriser et comme ça, et la propager. Voilà les détails très importants qu'on peut rajouter et on reviendra. Donc, on a dit la raison est une source de connaissance. On verra la nouvelle des prophètes telle qu'on vient de voir parce que comme le prophète, il a un miracle, donc il est véridique forcément. Il a une chose extraordinaire qui montre qu'il est appuyé par Dieu. La puissance de Dieu concerne ce qui est possible, ne concerne pas l'impossible, l'obligatoire. Par sa puissance, il crée l'anéanti. Donc, on répond pas oui ou non pour les questions de mécréance où ils vont rendre possible l'impossible. On a donné plein d'exemples de ces questions. Donc, on répond pas oui ni non. On dit la puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible. L'impossible ne peut pas exister. Donc, la puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible. Il ne concerne pas l'obligatoire parce que le seul être qui a l'existence obligatoire, c'est Dieu. Donc ceux qui disent cette question de mécréance, est-ce que Dieu peut s'anéantir lui-même, c'est une question de mécréance. Donc on ne répond pas oui ni non. On dit l'anéantissement est impossible, c'est l'action de Dieu. La puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible. Donc avec ça, la personne, elle est, donc disent les savants, la science, elle te préserve. L'argent, c'est toi qui le gardes, mais c'est la science qui te garde. Le passé n'existe plus. On est dans le présent. Le futur n'existe pas encore. Chaque instant est créé par Dieu. Bien sûr, je pourrais rajouter pour encore faciliter la compréhension, dire Dieu Tout-Puissant, pour créer une situation qui ressemble 100% à la même situation. D'ailleurs, Dieu Tout-Puissant pour te faire revivre la même situation à 100%. Qu'il y a, je sais pas, il y a 5 ans, il y a 10 ans, 20 ans, donc, mais la situation qui a existé ne peut pas s'effacer. Mais qu'il y ait la même situation semblable, c'est possible, rationnel, ça. Mais ce qui a existé ne peut pas s'effacer. Donc, voilà. Tout ça, c'est une culture importante musulmane, pour ne pas être proie aux manipulations. Donc, parce que de nos jours, la force des gens qui contre l'islam, c'est la propagande. Ils font la propagande
pour les gens deviennent athées, ils font la propagande pour que les gens deviennent extrémistes. Donc on le voit clairement, même les non-musulmans, eux, ils le reconnaissent, que c'est eux qui, voilà, ils financent, ils aident cette propagande, y compris de ces extrémistes wahhabites. Nous, on suit le juste milieu, la voie traditionnelle sunnite, la voie du prophète, et des compagnons. Donc, on a fait la prononciation, on a fait ça, et on va finir par la récitation et quelques invocations. C'est facile, hein. De toute façon, c'est des choses faciles. Donc, la religion, c'est facile, mais il suffit de répéter. Alors, donc, on refait la Fatiha et quelques invocations de protection, c'est très, très bien. Donc, vous voyez, là, on essaie de faire quelque chose de complet avec sciences islamiques, inshallah, jurisprudence, récitation, langue arabe. Tout ça, ça fait partie des richesses de l'islam. Mais la base, le plus important, c'est la foi, bien évidemment. Et la meilleure chose, c'est, après la foi, c'est les cinq prières. C'est pour ça qu'on fait les règles de la récitation, pour bien réciter la Fatiha, pour être protégé contre le mauvais œil, les djinns, la magie, tout ça. Donc, je vous incite à écouter la Ruqya dans l'application. Elle est très utile. Elle se répète en boucle. Très intéressante, la Ruqya, faite par des gens de confiance qu'on connaît. En fait, c'est des plusieurs versets qui sont récités. Et le but aussi de savoir réciter soi-même. Et c'est ce qu'on essaie de travailler, Inch'Allah. Et toujours, on renouvelle la bonne intention. C'est très important. Alors, donc on répète la Fatiha quand même, parce qu'on l'a répété une fois. Et un peu de règles, donc des invocations. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Donc on va répéter une dernière fois, on passe aux invocations. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On a commencé certaines invocations. Donc, on va refaire. Il est important de maîtriser les invocations, les évocations. Donc, on va refaire Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء للضاء لا وسي في attention ضو لا يضر لا يضر لا يضر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Donc, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Donc on répète encore. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Allez, une dernière fois. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Très bien. Donc, après, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Bien. أعوذ بكلمات الله التامات
أعوذ بكلمات الله التامات
من شر ما خلق،
من شر ما خلق،
أعوذ بكلمات الله التامات
أعوذ بكلمات الله التامات
من شر ما خلق. حسبي الله
حسبي الله
لا إله إلا هو،
لا إله إلا هو،
عليه توكلت
عليه توكلت،
وهو رب العرش العظيم.
وهو رب العرش العظيم.
حسبي الله
حسبي الله
لا إله إلا هو،
لا إله إلا هو،
عليه توكلت
عليه توكلت،
وهو رب العرش العظيم.
وهو رب العرش العظيم.
حسبي الله
حسبي الله
لا إله إلا هو،
لا إله إلا هو،
عليه توكلت
عليه توكلت،
وهو رب العرش العظيم.
وهو رب العرش العظيم.
Donc celle-là se dit sept fois, c'est une préservation, ça veut dire Allah me suffit, il n'est de Dieu que lui, je me fie à lui, il est le Seigneur du trône imminent. Donc Dieu, le créateur du trône, il n'a pas besoin du trône, bien sûr. Le grain de poussière, il a besoin de Dieu. Le trône, le plus grand corps que Dieu a créé, il a besoin de Dieu. Dieu peut les anéantir en un instant et les créer en un instant. Donc Allah me suffit, il n'est de Dieu que lui, je me fie à lui. Il est le Seigneur du trône imminent. Elle se dit sept fois, c'est une forte cause de protection. On va voir celle qu'on a vue aussi juste avant. A'udhu bikalimatillahit tammati min sharri ma khalaq. Qui signifie, je demande la préservation par la parole parfaite de Dieu contre le mal qu'il a créé. Ça montre que c'est Dieu qui crée le mal, comme c'est dans le verset, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. C'est Dieu qui peut te préserver du mal, car c'est lui le créateur du bien et du mal. Il n'a pas d'associé. Sauf que Dieu agrée le bien, il n'agrée pas le mal. Récompense le bien, il ne récompense pas le mal. Et kalimat illahi ici, c'est la parole parfaite de Dieu. Le terme, c'est vrai, il est au pluriel, mais ici, la parole de Dieu, il est unique. Mais c'est pour la glorification. Ici, c'est le pluriel de glorification. Pour glorifier la parole parfaite de Dieu qui est unique. La parole de Dieu n'est pas des sons, ni des lettres, n'est pas une langue arabe, ni une autre langue. Ne ressemble pas à la parole des créatures. Comme il a dit Abu Hanifa, Dieu parle sans langue ni lettres. Bismillah Donc le reste c'est trois fois, je commence par le nom de Allah, par son nom, rien ne nuit sur terre ni dans le ciel, il est celui qui entend et qui sait absolument tout. Et l'autre aussi qu'il faut, très courte, Allah, Allah, Rabbi, la ushriku bihi shay'a. C'est très très utile ça là. Contre les injustes, contre le mal, c'est très utile. Donc voilà, révisez très bien. Donc révisez bien ces choses-là. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est clair? Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Ashraf al-Mursalin, wa khatam al-Nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi al-Tayyibin al-Tahirin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. دونك ريفيزي بيان، دونك يوغا لا ريديفيزيون ان شاء الله، اي بور لي كيسيون دون لو بريفي ان شاء الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم.